Une demi-heure, Maxime.
Pourquoi c'est pas si possible?
Alors, on démarre le Speed Torah d'aujourd'hui, donc sur la paracha de Béchalar. C'est un Speed Torah spécial, comme d'habitude. Et il est extrait du Maor Vashemesh. Donc, je vous ai mis en haut deux psukim de la paracha, qui sont les psukim de l'introduction de la Shira, et un petit texte, qui est pas très long, du Maor Vashemesh. Qui est le Maor Vashemesh? Eh bien, comme d'habitude, c'est un Rav, dont le nom est quasi inconnu, et qui n'est connu que par le nom de son livre, comme le Chafetz Chaim, comme le Ora Chaim, etc. On ne connaît même plus leur nom de famille, qui s'est effacé devant le nom de leur livre. Vous avez son nom qui est marqué Rabbi Clunimus, Kalman Epstein. C'est son nom, donc de Marrakech, comme vous l'avez deviné. Et qui est ce Maor Vashemesh? C'est un grand rabbi de la Chassidoute, des premiers Rebbeim, ça veut dire c'est un Talmid du Noam Elimelech, le Rabbi Elimelech Milijensk. Donc c'est déjà les Talmidim du Baal Shem Tov. Donc on sait qu'il y a, on décrit 5, 6 ou 7 générations dans la Chassidoute, avec les élèves, des élèves, des élèves. Et ça c'est la première ou la deuxième génération. Bon, il y a le Baal Shem Tov, après il y a le Magid Mezrich, et puis après vous avez les grands élèves, le Baal HaTanya, le Noam Elimelech, etc. Les fondateurs, on va dire, des branches de la Chassidoute. Et vous avez parmi eux le Noam Elimelech. Et lui, c'était un élève du Noam Elimelech, donc c'est déjà très élevé. Il a écrit un sefer très connu, il y a plusieurs sfarim, mais un très connu dans la Chassidoute qui s'appelle Maor Vashemesh, Lumière et Soleil. D'accord? C'est un très très beau sefer, il donne des grands chidushim. À part ça, c'était un grand mekoubal. C'est pas tous les rebbeim, mais pas tous les tzadikim qui sont des mekoubalim. Mais lui, il avait beaucoup attrait à la Kabbalah. Et donc, son ouvrage est très très intéressant. Ici, il donne un petit texte qui est court sur la notion de Emouna. Alors, je vous ai mis deux psukim qui sont l'introduction de la Shira. C'est marqué comme ça. Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Adonai Mitzrayim, Vayireu Aham et Adonai, Vayaminu Badonai Moshe Abdo. Alors, vous avez ici un piège, puisque vous avez deux fois le mot vayar, vayar ou vayireu, mais c'est pas du tout le même sens. Vayar Israël, ça c'est simple, Israël a vu.
Ouais.
Parce qu'il y a un petit trait sous le yud.
Parce qu'il est spécialiste là-dedans.
Ouais. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne reconnaissent pas les voix, nous avons le bonheur d'avoir le bar mitzvah, Eliezer, Abitbol, on applaudit.
Première
couchée de la matinée. Ouais, parce que les gens, ils sont contents, ils écoutent Gérard, ils écoutent Albert, Agop, Michel. Ils sont heureux. Alors maintenant, ils vont se reconnaître. Et puis, si on a beaucoup de chance, on aura la voix d'Elkana, mais c'est pas sûr. Il va falloir forcer. S'il y a des grandes couchettes, il va parler. Alors, Vayar Israël, c'est-à-dire Israël a vu, et Ayad Agedola, la grande main, Asher Asa Hashem Mitzrayim, que Akadosh Baruch Hu avait fait en Égypte. Donc là-bas c'est voir. Vayireu, et ils ont craint, ils ont eu peur, d'accord. Et donc il faudrait expliquer pourquoi il y a une homonymie, hein, des noms. Enfin c'est pareil, c'est le même mot, bien que c'est dans le même sens. Ils ont eu peur, craindre. Donc c'est la re'eya, c'est voir, et la ira, c'est la crainte. Donc le premier c'est ils ont vu, le deuxième ils ont craint. Aham et Hashem. Donc en premier ils ont vu Hashem, et en deuxième ils ont cru Hashem. Et en troisième, Vayamin ou Vashem Moshe Abdo, ils ont eu la Emouna dans Hashem et dans Moshe son serviteur. Donc on a ici trois phases. La phase 1, c'est voir. La phase 2, c'est craindre. Et la phase 3, c'est Emouna. Ok? C'est ces trois phases dont il va falloir rendre compte. Et la conclusion, on va dire, de ces trois phases, c'est Az Yashir Moshe Ben Israël, Atashir Azot. C'est ce chant prophétique, Az Yashir Moshe, que alors Moshe chantera avec les Bnei Israël. Alors, je vous rapporterai en même temps un Beit Halevi, donc le Brisk Harouv, mais pour expliquer ça. On va démarrer déjà le Maor Vashemesh. Maor Vashemesh, Rabbi Klumus. Raouille la tête lève. En petit, c'est juste un résumé. Raouille la tête lève. Il est bon de mettre le cœur. Ça veut dire de remarquer. Al Omro, sur ce qu'il a dit, Vayar Israël, Vayar Aminu. Israël a vu, et ils ont eu Emouna. D'accord? Donc, le premier mot, on a dit que dans le verset 1, il y a trois phases. Il y a voir, craindre, et avoir confiance. Tu suis, c'est bon, c'est clair? Donc, tu as bien vu les trois mots. Voir, craindre, et avoir confiance. Lui, il prend la 1 et la 3, Et nous, après, on va expliquer entre la 1 et la 2. Il dit, il faut expliquer ce passage entre 1 et 3, entre voir et avoir confiance. Allô, voici. En emuna kezu emuna shlema, ce n'est pas, la phrase elle est un peu alambiquée, ce n'est pas une emuna comme celle-ci, une emuna shlema, im yamin adam achar shera anes. Si un homme, il va avoir l'emuna après qu'il a vu le net. C'est-à-dire, il dit, il y a une sorte de contradiction. Oui, ils voient un dévoilement extraordinaire. Ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la mer rouge, ils ont vu. Donc, c'est marqué, le ciel s'est ouvert, et une servante à la mer, elle a vu plus que le prophète Ézéchiel. Donc, ils étaient dans une madriga extraordinaire de dévoilement. Parce qu'on te dit, ils ont vu la main d'Hachem. Ils ont craint Hachem, donc ils sont dans un état de vision. Alors, le Maharaj Hachemaj, j'ai dit, pourquoi il peut y avoir Emouna après vision? Et c'est bizarre, quand tu vois, tu n'as pas l'Emouna, justement la Emouna c'est quand on ne voit pas. Pourquoi on dit j'ai Emouna? Parce que c'est quelque chose que je ne vois pas ou que je ne comprends pas, et j'ai quand même une Emouna. Alors comment ça se fait?
Voir une grande chose, quelque chose d'extraordinaire, ça te pousse à...
Non? Oui, mais à quoi?
La révélation de ce qu'il y a au comptoir, en fait, c'est tout.
Oui, mais alors donc tu parles plus d'Emouna si tu vois. Non, si tu as vu Hachem, tu n'as plus l'Emouna.
On a une Emouna, mais qui est une Emouna, inconsciente. Et quand tu le vois quelque chose, ça réveille ta Emouna.
Oui, mais il n'y a plus besoin.
Tu la conceptualises.
Tu as raison, mais il n'y a plus besoin de dire j'ai la Emouna puisque tu vois. Par exemple, si je te dis.
Parce que si, quand tu ne te rends pas compte que tu as la Emouna, tu ne penses pas que tu as la Emouna.
Mais j'en ai plus besoin puisque j'ai vu.
C'est quand Moshe qui leur a dit.
La Emouna, oui, tout de suite, hein. La Emouna, si tu, par exemple, j'ai Emouna, qu'Hachem va me sauver.
La question c'est de te dire, tu dis, si j'ai vu, alors pourquoi est-ce que
la J'ai Emouna... plus besoin de la Emouna derrière. Non, si tu vois
ça,
Dieu.
C'est pas ça, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on peut avoir Emouna après avoir vu?
Non, il n'y a plus besoin de parler d'Emouna après avoir vu, c'est ça la question. Y a, la notion d'Emouna, c'est avant de voir. Quand tu vois,
s'il n'y a plus la... Tu vois,
comment?
Quand tu vois, il faut regarder l'Emouna.
C'est-à-dire pour après, quand tu verras plus. Mais au moment, tout de suite, mais au moment où tu vois, se rejoint un peu la question de la mère, mais au moment où tu vois, ça veut dire que les choses sont claires. Donc il n'y a pas de, c'est pas un problème. Emouna. En général, Emouna, ça veut dire que je suis mamie dans quelque chose que je vois pas. Mais si je vois, par exemple, tu dis, j'ai Emouna en HM. Mais si tu le vois, parce qu'il s'est dévoilé à toi, tu dis pas j'ai Emouna. Emouna, ça a l'air d'être une madriga qui est en dessous ou avant la vision. Est-ce que tu comprends? Quand tu dis j'ai Emouna, par exemple, qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire ça, qu'il va nous sauver. Par exemple, les Bnei Israël, ils ont la Emouna qu'ils allaient être sauvés. Mais une fois qu'ils sont sauvés, tu dis pas j'ai l'Emouna qu'on va être sauvés, on a été sauvés. Je vois. C'est une réalité. C'est-à-dire que la vision, c'est une réalité. Et la Emouna, c'est une croyance. Donc la vision, elle est plus haute que la croyance, a priori. Tu comprends? C'est ça la question.
Il y a des miracles, et même après avoir vécu des miracles, dans les pieds des ténèbres, ils n'ont pas voulu sortir. On voit bien qu'on a beau voir les miracles, on n'a pas la Emouna et on n'a pas voulu sortir.
Très bien, bonne question. Alors pour répondre aussi à ta question, aussi à toutes vos questions, parce que je comprends, c'est-à-dire, vous avez abordé, par exemple, ou toi, ou Albert, ou Eliezer, vous avez dit que peut-être que la Emouna, toi tu voulais dire, ça va renforcer une Emouna, pas pour maintenant, pour plus tard. Oui. Ça veut dire que quand la vision disparaîtra, ça va donner la Emouna, d'accord? Mais a priori, ça a l'air d'être dans le même moment. C'est-à-dire que c'est au même moment, il y a voir et Emouna. Quelque part, ça diminue la puissance de la vision. Alors déjà, je vous ai dit...
On peut pas dire qu'en voyant la chose, tu confirmes, tu
mets un coup de... Comme il a voulu dire Albert, mais il n'y a pas besoin de confirmer quelque chose. Il n'y a pas besoin de confirmer quelque chose. Par exemple, je te dis, Gérard, j'ai confiance en toi que tu vas m'aider. D'accord? Tu vas m'aider à déménager. Oui, bon, ça va, j'ai confiance en toi. Mais si on a déménagé, je te dis pas j'ai confiance en toi, tu viens de m'aider. Ouais, c'est ridicule de dire tu vas m'aider.
Ça, mais tu dis j'ai eu raison d'avoir confiance en toi.
D'accord, mais c'est pas ce qui est marqué. C'est pas ce qui est marqué j'ai eu raison. C'est marqué ils ont eu confiance. C'est-à-dire, j'ai confiance en... Alors c'est vrai qu'on peut dire pour le futur, c'est vrai qu'on peut dire pour le passé, mais pour le présent, tu dis pas j'ai confiance, je vois que tu m'aides, tu portes les cartons, donc je vois que tu m'aides, je parle pas de Emouna, d'accord? Soit on va dire que c'était confirmer l'aïmouna d'avant, mais bon, ça, j'ai pas besoin. Parce que j'ai pas besoin de confirmer quelque chose qui n'était que du virtuel alors que je vais du réel. Soit on va dire qu'en vérité, on est en train de renforcer quelque chose pour plus tard. Mais je voudrais simplement mettre le doigt sur quelque chose qui dit le Beit HaLevi. Le Beit HaLevi dit qu'on n'a pas parlé du deuxième terme. Et le deuxième terme, dans la phrase, est assez complexe. Le premier, il est facile. Bayar Israël et Ayad Agdola, Asher Asa Hashem et Mitzrayim. Israël a vu la grande main qu'Akadosh Baruch Hu avait fait en Égypte. Bon. C'est quoi la grande main qu'il a fait en Égypte?
Les 10 plaies.
Hein? Les 10 plaies. Tu es sûr? Tu as raison. La grande main en Égypte, jusque là, ça va. Parce que la main, c'est la puissance, la force. L'Égypte, c'est les 10 plaies. Oui. À peu près. Sauf que, si tu fais attention, c'est marqué Asher Asa Hashem. Hashem, c'est la Midat HaRachamim. Tu vois? Donc on aurait dû dire Asher Asa Elohim. Parce que c'est la Midat HaDin. Tu sais qu'il y a deux noms pour désigner la, comment Akadosh Baruch Hu se comporte dans le monde. Il y a Midat HaDin et Midat HaRachamim. Donc en réalité, c'est vrai que l'Égypte, c'est les Makot. C'est drôle qu'on mette Hashem. Ça, c'est la première question. Et ça t'introduit la deuxième remarque. Vayereu Aham et Hashem. Oh! Et ils ont craint Hashem. C'est drôle ça. On craint pas Hashem, on aime Hashem. Si Hashem c'est Midat HaRachamim, c'est marqué Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levav bechol nafshecha, tu l'aimeras, tu le crains pas. Oui, comme c'est marqué, tout ce qu'on a dit, on a dit que toute la parashat, tout le Sefer Shemot, il est là pour nous initier au Midot d'Hashem au travers de son nom. Comme on avait dit dans Vaera, Vaidaber Elohim, Vayomer Elav Ani Hashem. Ici aussi, c'est drôle, il demande le Beit HaLevi, Vayireu Aham et Hashem. Ils ont craint Hashem, on craint pas Hashem, on aime Hashem, on craint la Midat Elohim. C'est-à-dire que c'est le même, mais on craint quand il se présente dans la Midat Adin, alors on tremble. Mais quand il se présente en Midat Rachamim, oui, alors on tremble pas, on est heureux, on l'aime. Vayamin ou Bachem, et la conclusion c'est Vayamin ou Bachem. Alors il dit le Beit HaLevi qu'en réalité, les Bnei Israël, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est que chaque fois, ils avaient quelque chose de double. La sortie d'Égypte, elle est double. C'est-à-dire que à la fois, c'est la Midat HaDin contre les Égyptiens, puisqu'ils ont les 10 Makot, et à la fois, c'est la Midat HaRachamim pour les Juifs, puisqu'ils vont être sauvés. La traversée de la mer Rouge, c'est la même chose à l'envers. C'est-à-dire, c'est à la fois la Midat HaRachamim pour les Juifs, puisqu'ils vont être sauvés, la mer Rouge va s'ouvrir, et à la fois la Midat HaDin pour les Égyptiens, puisqu'ils vont être engloutis. Parce que là, vous êtes bon? Oui. C'est en même temps. Donc, c'est à dire que, et la sortie d'Égypte, et la traversée de la mer Rouge, sont mixtes. Et Midat HaDin et Midat HaRachamim. Sauf que, dans la sortie d'Égypte, oui, quel était le moteur? Le moteur, c'est la Midat HaDin. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils avaient pas de zrouyot pour éveiller la Midat HaRachamim. C'est marqué que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient sans mitzvot. Et donc, c'est que la Midat HaDin qui a agi, oui, et, cette Midat HaDin, elle a laissé émerger la Rachamim pour les Bnei Israël. Mais le Ikar, c'est un Midat HaDin. On va appeler ça Rachamim Bedin. Alors qu'à la traversée de la mer Rouge, c'est l'inverse. Les Bnei Israël, ils ont eu maintenant le Korban Pessah, ils ont eu la Brit Mila, et donc ça réveille la Midat HaRachamim. Oui? Maintenant, cette Midat HaRachamim qui va sauver les Bnei Israël, elle va engloutir les Égyptiens. Vous avez Din Berachamim, ça veut dire que quand la Midat HaRachamim s'éveille, ça peut aussi être une Midat HaDin. Donc en réalité, c'est ça le grand chidouche qui dit le Beit HaLevi, c'est que il faut pas penser que la Midat HaDin c'est que du Din, et que la Midat HaRachamim c'est que de la Rachamim. En réalité, au moment où il y a le Din, oui, et c'est ça qu'il faut bien percevoir, quand il y a du Din sur un rachat, tout celui qui n'est pas à la Madriga, donne un coup de poing Michel s'il te plaît, tout celui qui n'est pas à la madriga du din, alors il est sauvé. Et ce sauvetage-là, c'est de la rachamim. Comprenez bien.
Une balance, non?
Non, c'est plus qu'une balance. Si Akadosh Baruch Hu, il fait le din sur un rachat, oui, ça veut dire, il dit, ce type-là, il est à 100, il va prendre des makotes. Ceux qui seront à 50 ou à 30 de Rishout, ils seront sauvés. Donc quelque part, c'est une rachamim. Ça veut dire que bien qu'il y ait le din qui s'exprime, celui qui n'est pas concerné par le din est sauvé. Et donc, étant sauvé, c'est comme une rachamim, puisqu'il est sauvé. Donc quand les Égyptiens, ils ont été frappés par les Makotes pour les punir, c'était du din. Mais ce din-là, il a laissé émerger une île de sauvetage qui a sauvé les Bnei Israël, et ça c'est de la Rachamim. Donc c'est de la Rachamim quand le din s'applique. À l'inverse, quand vous avez une grande Midat Rachamim, comme la traversée de la mer Rouge, et pourquoi je dis que c'est Midat Rachamim, parce que dit le Beit Halevi, c'est parce que les Bnei Israël, ils méritaient, ils avaient des zrouyot, donc ça a éveillé la Midat Rachamim. Les Bnei Israël, ils étaient devant la mer. Ils sont arrivés avec leur mérite. Ce mérite-là a fait que Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés, donc c'est la Midat Rachamim. Cette Midat Rachamim a dit, ah, vous, vous êtes à 100 de mérite. Vous êtes sauvés. Par contre, quand la Midat Rachamim s'exprime, si quelqu'un y vient et il n'est pas au niveau de cette Midat Rachamim, il va prendre une bonne claque. Pourquoi? Parce que maintenant, on sauve ceux qui sont à 100. Soit tu arrives, tu as 50 ou 10 ou 20 de Zrouyot, comme l'étaient les Égyptiens, et bien donc tu prendras une claque. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'expression du din au travers de la Rachamim. Donc, la Kriyat Yamsouf, c'est le miroir de Yetziat Mitzrayim. Vous comprenez? Ça, c'est le chidouche du Beit Halevi. Dans la Yetziat Mitzrayim, c'était la Midat Adin sur les Égyptiens. Et au travers de ça, on a vu une Midat Arachamim sur les Bnei Israël, parce qu'ils n'avaient pas de mérite, c'est vrai, mais ils n'étaient pas aussi mauvais que les Égyptiens. Donc, ils ont été sauvés indirectement. C'est-à-dire que l'application de la Midat Adin, elle peut entraîner derrière elle un sillage de Rachamim. Dans l'autre sens, l'application de la Midat Arachamim, il faut se méfier. Quand la Midat Arachamim, elle se réveille, c'est vrai que c'est bien pour celui qui est concerné. Mais celui qui n'est pas au niveau de la Midat Arachamim, il sera touché par la non-Rachamim. Ça veut dire le non-din, c'est de la Rachamim. La non-Rachamim, c'est du din. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et c'est ça qui est marqué. Regardez. Il reprend le passage dans la lecture du Beit Halevi. Vayar Israël et Tayad Agdola. Et les Bnei Israël, ils ont vu la grande main, Asher Asa Hashem Bemitzrayim, qu'Akadosh Baruch Hu, il avait fait en Égypte. C'est quoi la grande main? C'est qu'ils ont été sauvés malgré le din. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont compris que c'était une période mauvaise. C'était l'application de la Midat Hadin. Ils ont vu les makas, ta, 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 ta. Et à la dernière maka, qui était une maka terrible, ils ont été sauvés. Donc ils ont vu, et Tayad Agdola, Asher Asa Hashem. Ok? Et le corollaire, donc ça c'était en Égypte. Le corollaire va irer où à Amet Hashem. Et ils ont craint Hashem. Ça veut dire que à la traversée de la mer Rouge, ils ont pris conscience de l'inverse, c'est qu'on peut craindre la Midat Arachamim. Parce que quand ils ont vu les Égyptiens engloutis, alors ils ont craint cette Midat Arachamim. Vous voyez, parce qu'au début, le premier passage qui dit, oui, ils ont vu la Midat Arachamim, qu'ils ont été sauvés en Égypte, etc. La vie est belle. Aïe, aïe, aïe. Quand on a la Midat Arachamim, c'est beau. Maintenant, ils se rendent compte que, et doucement, la Midat Arachamim, elle peut être dure. Et donc, voilà pourquoi vous avez cette expression paradoxale. Bah, ils disent, ouah, Amet Hashem, ils ont craint Hashem, ils ont craint, on peut craindre la Midat Arachamim. Voilà. Et maintenant, la troisième partie. Donc ça, c'était le Beit Halevi. Ça répondait en partie à vos questions. La troisième partie, c'est Vaya Aminu Bashem Moshe Avdo, et ils ont eu la Imuna. Et c'est là que s'intègre ce chidouche du Maor Hashemesh qu'on va lire tout de suite. Pourquoi est-ce que la phase 1, la phase 2 se prolonge par la phase 3 de Emouna? La phase 1 et la phase 2, c'est un grand guilouï, c'est un grand dévoilement. C'est percevoir des choses très grandes dans le comportement d'Hachem. C'est voir. Ils ont vu la Midat à Rachamim Bedin. Ils ont vu la Midat à Din Berachamim. Alors pourquoi, après voir ces choses-là, c'est-à-dire ils ont vu la main de Dieu. C'est comme si, c'est marqué, ils ont vu Atayad Agdola. Ils ont compris les choses. Pourquoi parler de Emouna? Alors regardez la troisième ligne du Maor HaShemesh. Vanir et Bazé, il me semble là, Alpi Midrash Chazal, d'après le Midrash des Chachamim dans la Gemara dans Sanhedrin, chez Darshu, où ils ont expliqué, Mikan, d'ici, de ce verset suivant, Aziachir Moshe, Remez Litriat Ametim Mina Torah. Il y a une allusion à la résurrection des morts dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué chez Az, alors, les Hatit, dans le futur, Yashir Moshe Obnei Israël, Moshe Rabbeinu, il va chanter. Puisque vous savez bien que Az Yashir, c'est un futur, alors il chantera. C'est pas dire, alors il a chanté. Donc la Gemara, elle dit, c'est une allusion au fait que viendra le jour où Moshe Rabbeinu chantera. Ça, c'est la Triat Ametim. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Donc, en réalité, il y a une phase 4. Phase 1, c'est voir la Rachamim Bedin, phase 2, voir le Din Berachamim, phase 3, la Emouna, phase 4, la Shira, et donc la Triat Hametim. Et il dit, Veine, Yadoua. Oui.
J'ai une question un peu en rapport, mais du coup, Moshe, il n'avait plus les bras, il était obligé de chanter.
C'est une très bonne question, c'est ça que dit Rashi. Son cœur l'a poussé à chanter, c'est tout à fait juste. Rashi dit, c'est-à-dire quoi, Az Yashir Moshe, alors Moshe a chanté. Rashi dit, son cœur l'a poussé à chanter, c'est-à-dire qu'il y a des fois des situations dans la vie où quasiment tu as plus le libre arbitre que de louer Dieu. Et c'est trop fort, c'est exactement ce que dit Rashi Chazak. Veine, oui.
Juste dire une remarque. Est-ce que, parce que cette histoire de, ça me fait penser à un verset qu'on avait fait sur la notion de dire que Hachem il s'est rappelé de Bnei Israël. On avait dit que Hachem ne se rappelle pas. Quand tu dis Hachem se rappelle, c'est changer de Mida.
Oui.
Ça ressemble un peu à ça aussi, non?
Je sais pas, parce qu'ici on parle pas qu'il a changé de Mida. On parle que les Bnei Israël, ils ont perçu une Mida. On parle du côté de la perception. Alors, c'est vrai que tu as raison que l'un c'est Rahamim Bidin et Rahamim. C'est vrai, dans ce sens-là, c'est percevoir de Mida. Mais disons que c'est juste. C'est-à-dire que Ayetiyat Mitzrayim, c'était Rahamim Bidin, et Akriyat Yam Suf, c'était Bidin bar Rahamim. T'as raison. Dans ce stade-là, c'est Kakadajuro. Mais nous, on est du côté des Bnei Israël, du côté perception. Mais c'est vrai que si du côté perception, c'est comme ça, c'est que du côté d'Akadajuro, si c'est comme ça. Tu vois, mais en réalité, c'est vrai qu'il faut nuancer. Akadajuro, il change pas. C'est notre quand Akadajuro, il intervient dans le monde, nous, on le perçoit comme ça. C'est juste, c'est la même idée. Alors, regardez. Le deuxième paragraphe du Maor HaShemesh. Tout le monde est bon, à part ceux qui dorment. On est bon. Alors, Veiné. Regardez bien, maintenant, ça, c'est le Chidush. Et voici. T'es bon, Eliezer?
Ouais, je suis bon.
Ah oui, c'est comme c'est la première fois que tu viens à Tzidbar Mitzvah, tu te rappelles que l'obligation de ceux qui sont là, c'est de répéter le Dvar Torah à la table de Shabbat. C'est comme ça. Alors, d'accord, comme vous êtes tous les deux avec El Gana, il faut un le vendredi soir, le samedi matin. Veine, Yadoua, c'est connu, qui Ikar Emouna, l'essentiel de la notion de Emouna, Hi, c'est quoi? C'est quoi la Emouna? Chez Bechol Asagot, dans toutes les perceptions, les compréhensions, chez Asiga Adam, qu'un homme va percevoir, Minatsurer, il est nécessaire, chez Yeda, que l'homme sache, Aliede Asagazu, que par cette perception-là, chez Adai Nish Arlo Beainyanaou, qu'il lui reste encore dans ce sujet, d'avoir une chose, chez NBF Shari Shiasigo, qui ne lui est pas possible de percevoir. Ça veut dire le principe de la Emouna, bon, ça c'est un grand chidouche, que la Emouna, elle poursuit, elle continue la Asaga. Je m'explique. Un homme, il a dans sa vie deux éléments. Il a ce qu'il perçoit et ce auquel il croit. Percevoir, c'est-à-dire savoir. Il y a le savoir et la confiance. La Emouna. D'accord? Les choses que tu sais, tu n'as pas besoin d'Emouna. Tu sais, le feu il brûle, tu dis pas j'ai la Emouna que le feu il brûle. C'est pas quelque chose que tu crois, c'est quelque chose que tu sais. Alors ça c'est valable dans le quotidien. Par exemple, il y a des choses qu'il faut tester. Et plus tu testes, plus tu réduis ton champ de Emouna. Par exemple, de dire que le courant électrique ça brûle. Oui, si quelqu'un il l'a pas testé, il peut pas savoir. Tu dis, bon, on m'a dit, je vous crois, je vous fais confiance, que ça brûle. D'accord? Mais un jour, mets ta main sur du courant, tu vas te brûler, tu vas dire, j'ai confiance, tu dis, non, je sais, il n'y a pas de différence entre la flamme et le courant. Jusqu'à là, t'es bon? Maintenant, après, je vais te dire, tu sais quoi, Eliezer, le froid, ça brûle. Tu me dis, ah, le froid, ça brûle. Je te dis, moi, je suis un grand scientifique, le froid, ça brûle. Tu dis, bon, je te crois. Mais le jour où tu vas tester, tu vas prendre un glaçon, tu vas le garder 10 minutes, tu vas te rendre compte que ta main est brûlée, tu vas dire, oh purée, il a raison. Le froid, ça brûle. Donc, tu vois que chaque fois quand tu progresses, tu diminues ton niveau, enfin, tu réduis les choses sur lesquelles tu crois pour que ça devienne des choses que tu sais. Il y a ce que tu sais et c'est auquel tu crois. Alors maintenant, plus tu progresses dans le savoir, plus tu réduis ta croyance, ta émouna. Ça, c'est valable dans le champ physique, dans le champ de notre réel. Mais il dit le Maor HaShemesh, c'est valable également dans le champ de la du divin, du spirituel. Il dit un homme, il doit savoir que plus il progresse dans la asaga, dans la perception, dans la compréhension des choses spirituelles, malgré tout, il reste du domaine de la emouna. Ça veut dire que c'est vrai que le ciel, il peut s'ouvrir et tu vois la main de Dieu, et tu vois la rachamim adin et le din berachamim. Mais malgré tout, il reste après ça encore de la emouna. Vous me suivez? Regardez. Bene yadoua, ki ikara emouna, l'essentiel de la emouna, qui est quelque chose de nécessaire, ish bechol asagot shiyasiga adam, c'est que dans toutes les perceptions qu'un homme perçoit, minatsorer sheyeda alidea sagazu, c'est nécessaire qu'il sache que malgré cette perception, shadaïn encore, nish'ar lo be'ainyana, où il lui reste dans ce sujet-là, d'avoir une chose, she'en be'efshari shi'asi, qui lui est pas possible de percevoir. Rak shi'aminu, qui doit juste avoir la emuna, be'torat ha'emuna be'hashem, dans la emuna dans Hashem. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie qui est du domaine de la emuna. Ve'ine, et voici. Tachlit ha'emuna, l'essence, l'objectif, le but de la emuna, i emuna triatametim. C'est la emuna dans la résurrection des morts. Alors, en réalité, bon, ça nécessiterait encore d'être bien approfondi. Mais vous savez que, c'est marqué, Ariel Agneux, Shoshé, Ikrim, Shadra. Il y a 13 principes de emuna qu'a colligé le Rambam. Le Rambam, il a dit, il y a Yud Gimel Ikare emuna, les 13 principes de la emuna, c'est ces 13 choses qu'on avait déjà étudiées et qui sont les fondements, les bases de la emuna. C'est-à-dire, sur ces 13 choses, il y en a certaines pour lesquelles on a une certaine perception, on a une asaga. Mais malgré tout, chacun des 13, il y a une emuna. Et le 13e, c'est la triat hametim. Comme si le summum, l'objectif, le tachlit de la emuna, c'est la résurrection des morts. Il dit, venez tachlit à emuna, il le dit d'ailleurs dans ces termes-là, le Maor HaShemesh, l'objectif de la emuna, c'est la emuna ultime, emuna triat hametim, c'est la croyance dans la résurrection des morts. Or ça, c'est quelque chose qui est du domaine du non accessible. Mipne asher bilti efshari, parce que c'est impossible, les Adam à un homme, les Asigo de le percevoir, veliroto et de le voir. C'est hors de la conscience. Nous, on est dans un monde qui est dans un monde qui va vers sa réduction, puisqu'on est un corps, on est un être humain, et l'être humain, il se réduit. C'est très difficile pour lui d'être massique, de le percevoir. On est ma'amine, on a une vision un peu obscure de ce que ça va être. Alors c'est vrai qu'on voit, on met le grain dans la terre et qu'il se relève, etc. C'est des choses qui nous orientent vers. Mais savoir que Béhémet va arriver le jour où ils vont tous se réveiller, ça c'est quelque chose qui est du domaine de la emouna. Ata, maintenant, baolamazé. Qui, im, mina, tzorer, la dernière ligne du deuxième paragraphe, c'est nécessaire, les amino, d'avoir confiance, betorata emouna, avec le principe de la emouna. Donc il dit, vezé, pirou, shakatou, dernier paragraphe, et c'est ça donc l'explication de ce verset. Vayar Israël, vayar aminu, Aziachir. Voyez les trois phases. Alors lui, il a sauté la phase 2, qu'on a nous expliqué au nom du Beit HaLevi, mais qui renforce encore son chidouche. Qu'en fait, vous avez phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Il dit, c'est ça qui est marqué. Vayar Israël, biuro, l'explication. Shealiede Sheraou, que puisqu'ils ont vu, le 1 et le 2. Ils ont vu qu'en Égypte, c'était Rachamim Bedin. Ils ont vu ça. Ils ont vu qu'à la mer Rouge, c'était Din de Rachamim. Mais ils ont vu ça. Donc ils ont vu Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ils ont vu la main d'Hachem. C'est un dévoilement extraordinaire. Bah, ou malgré tout, ils sont venus. Alors, est-ce que c'est malgré tout ou c'est grâce à ça? Tu vois, ça pourrait aller dans ton sens. Mais il dit pas si c'est malgré tout grâce à ça. Il y a un peu les deux, tu vois. Bah, où ils sont venus les emouna triatametim, à la emouna dans la triatametim, que ça, ils pouvaient pas l'avoir encore. Parce qu'ils ont devant eux, il faut pas oublier, qu'ils ont laissé derrière eux en Égypte 4/5 qui sont morts, ils ont devant les yeux des milliers d'Égyptiens qui sont morts, et ils ont un grand dévoilement de la puissance d'Hachem. Et finalement, la emouna ultime, qu'ils doivent avoir à ce moment-là, et donc c'est un travail de emouna, c'est Baoul et Mouna Triatametim, ils sont arrivés à la Emouna dans Triatametim, Ve'eminu, et ils ont eu confiance chez Az, que alors, les Hatid dans le futur, Yashir Moshe Obne Israël, Moshe chantera, c'est-à-dire chez Yuchlu Kulan, qu'ils vont vivre tous, Bitriatametim, dans la résurrection des morts, Ve'kaleavin, et c'est facile à comprendre. Alors il est très gentil quand il dit c'est facile à comprendre. Il reste juste un tout petit point qui reste, enfin, qui reste à éclaircir, qu'est-ce qu'il veut dire, juste ce que je disais à Calbert maintenant, c'est est-ce que ils ont fait cet effort, quand on dit Vaya Aminu, oui, est-ce que c'est la conséquence de ça, ou bien c'est un effort qu'ils ont fait. Ça veut dire que quand tu as une grande asaga, tu as une grande perception, tu comprends quelque chose, tu vois quelque chose, oui, est-ce que ça va t'aider à avoir la Emouna? Et donc ça te pousse vers cette Emouna ultime, ou bien non, c'est comme maintenant que tu as eu, tu dis j'ai tout compris, donc il faut que tu fasses cet effort pour te hisser à ce niveau de Emouna. C'est-à-dire ce niveau de Emouna, c'est un niveau où tu acceptes que tu ne comprends pas tout. D'accord? En réalité, je pense que c'est plus, c'est un peu des deux, c'est probablement un peu des deux. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où tu te dis, bon, c'est clair, les choses sont claires. Din berachamim, rachamim bedin, c'est bon, tout est clair. On te dit non. Il y a une chose qui reste encore du domaine de l'obscur, et la seule chose qui reste dans le domaine, qui peut rester dans le domaine de l'obscur, et qui peut être la puissance de la Emouna, c'est la Emouna dans Kriyat HaMeti. Et donc ça, c'est l'objectif, le summum, le point culminant de la Emouna, c'est la Emouna b'Kriyat HaMeti. Voilà.
Lui, on ne peut pas dire que si une fois qu'on l'a vu avec les yeux, avec ses yeux, donc ça, tu crois beaucoup plus facilement que si tu ne l'as pas vu.
C'est vrai.
T'as entendu, bon, ça c'est pas... Mais tant que tu ne l'as pas vu, peut-être tu es un peu réticent.
Je comprends, ça c'est ce qu'on a dit au début, mais une fois que tu l'as vu, tu n'as plus besoin de croire. Tu l'as vu.
D'accord.
Oui, donc vu, si on parle de croire après la vision, c'est croire à autre chose que la vision. Là, ils ont vu la main d'Hachem. Ils ont vu Din Berachamim, Rachamim Bedin.
Voilà.
Donc il n'y a plus besoin d'y croire à ça quand tu l'as vu. D'accord? S'il dit, moi je crois que Gérard il est très costaud, mais je ne l'ai jamais vu. Ouais. Maintenant, si je te vois soulever un frigo, je dis plus je crois. Je dis, mais je l'ai vu, hein? Gérard ouais, et Meyer, c'est pareil. Donc ouais. C'est la même chose, oui? Donc c'est plus de la Emouna, je l'ai vu ça. T'es d'accord ou pas?
Ouais.
Donc si je dis j'ai la Emouna, c'est-à-dire j'ai la Emouna que. Il est prix Nobel de physique. Ça, je ne l'ai pas vu encore. Oui ou pas? Allez, Chabet!
David,
il faut que tu vois, même Michel, il faut. Normalement, tu le reçois, tu es sur la liste à GOP. Alors, il faut que tu ailles regarder dans tes spams.
C'est quoi spam?
Spam, il y a des trucs.
On a changé parce qu'il y a plusieurs adresses déjà.
Pour toi, oui, mais lui, non. Lui, il n'a qu'une seule. Il faut que tu ailles avec. Il faut que tu ailles. Parce qu'avant, tu as changé d'adresse mail.
Non, je...
C'était avant Outlook, maintenant, tu as. Alors, soit ça passe dans tes spams, il faut que tu m'amènes ton ordi, qu'on regarde. Parce que ça part chez toi. Si ça arrive pas, il y a des fois des courriers